Alors, le mariage est un sujet dont on parle beaucoup dans notre société, n'est-ce pas? C'est un sujet dont la Bible parle souvent. Ça fait partie des discours publics. C'est un sujet qui a provoqué même des manifestations ici en France il y a 2 ans. On parle du divorce et des scandales dans les mariages des stars, des fois. On discute de la définition du mariage. Même certains sociologues, certains philosophes, certains hommes politiques veulent redéfinir le mariage. En fait, ils l'ont déjà fait. Certaines personnes ont pour but de déconstruire complètement le mariage. C'est vrai que le mariage souffre aujourd'hui, n'est-ce pas? Le mariage souffre. La relation entre un homme et sa femme est déjà suffisamment difficile. Mais les changements de rôle dans le mariage, les tentations vers l'infidélité, les pressions de la culture, tout cela ajoute un fardeau de plus aux mariés. Le divorce et les abus dans le mariage touchent même les chrétiens. Alors, comment les chrétiens peuvent-ils témoigner de Christ dans leur mariage et dans leur attitude envers le mariage? Dans un monde où le mariage n'est plus valorisé, les mariages chrétiens seront examinés attentivement et plus qu'avant. Qu'on soit marié ou non, le monde peut facilement examiner la vie familiale des chrétiens. En fait, nos mariages et nos attitudes vers le mariage peuvent nuire à notre témoignage de Christ. Mais ils peuvent servir aussi comme apologétique pour la foi chrétienne. Autrement dit, ou autrement, les mariages chrétiens peuvent témoigner de Christ et comment la grâce de Dieu touche chaque domaine de notre vie. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on va étudier la suite d'un Pierre, donc 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7, qui parle plus de ce sujet de mariage. Donc 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, utilise ton écriture ce soir pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous redresser et pour nous éduquer dans la justice. Seigneur, prépare-nous à toute œuvre bonne pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Ce texte commence par un mot qui est frappant, qui est choquant, qui est peut-être un peu offensant aux oreilles de nous qui vivons dans le sillage de la philosophie féministe du XXe siècle. On lit ces mots, femmes, soyez soumises, et ça confirme pour nous que la Bible est misogyne, misanthrope, patriarcale, homophobe, raciste, opprimant, et une dizaine d'autres étiquettes, n'est-ce pas? Même des chrétiens, hommes et femmes, ont du mal avec ce genre de texte, parce que notre monde, surtout dans le monde occidental, l'Occident moderne, nous enseigne que nous ne sommes pas soumis à personne, n'est-ce pas? Mais en fait, pour les chrétiens, par notre soumission, nous témoignons de Christ et du salut. Dans 1 Pierre chapitre 2, nous avons vu déjà que la soumission fait partie de la vie chrétienne. Cette attitude de soumission, qui est contre culture, nous rappelle que nous ne vivons pas pour nous-mêmes et qu'il y a une autorité supérieure à nous, à savoir Dieu. Si nous sommes chrétiens, nous sommes par conséquent soumis à Dieu, soumis à l'autorité de Christ, soumis aux autorités civiles, soumis au pouvoir ordonné par Dieu, soumis à nos maîtres ou à nos patrons plutôt. Et ici, pour les femmes, elles sont soumises à leur mari. Ailleurs dans la Bible, les chrétiens sont appelés d'être soumis les uns aux autres dans l'amour et dans l'humilité. D'être chrétien veut dire que nous ne sommes pas maîtres de notre propre vie. Ce texte met en valeur la soumission comme témoignage convaincant. Et comme l'attitude de Christ était une attitude d'humilité et de soumission à l'autorité du Père céleste, l'attitude de soumission d'une femme chrétienne peut mettre l'accent aussi sur sa foi en Christ. Je comprends bien que l'enseignement de ce texte est un peu délicat. Je comprends bien que des passages bibliques comme ceci peuvent être appliqués erronément dans des relations abusives. Mais je vous rappelle que tous les textes de la Bible doivent être compris dans leur contexte littéraire, dans leur contexte historique et dans leur contexte théologique aussi. On ne doit pas être trop focalisé sur le mot « soumission » et en faisant rater l'idée principale de ces versets, à savoir un comportement féminin qui témoigne de Christ et qui valorise la relation entre femme et mari. C'est vraiment ça qui est important dans ce texte. Alors, la soumission, dans ce contexte, ne veut pas dire que la femme doit faire tout ce que son mari lui dit sans réfléchir. Ça ne veut pas dire que la femme n'est qu'une servante sans aucune liberté. Je crois que c'est ici que le contexte historique et le contexte théologique va nous aider de comprendre mieux ce que Pierre est en train de dire. Historiquement, les femmes en Israël n'avaient pas beaucoup de liberté, surtout dans la période qui suivit l'exil et sous la direction des diverses écoles rabbiniques, donc dans l'époque de Pierre, dans l'époque de Jésus. Les femmes grecques avaient encore moins de valeur et de liberté. Elles étaient souvent expulsées de la vie publique et sociale de leur mari. C'est vrai que certains philosophes et moralistes grecs, comme Plutarque par exemple, ont dit par contre que la femme n'est pas une propriété. La relation entre l'homme et sa femme se compare plutôt à la relation entre l'esprit et le corps. Donc il y avait des choses positives comme ça qui étaient dites par certains philosophes grecs. Mais de même, la soumission est mise en valeur dans la culture grecque à cette époque-là. Dans la société romaine, les femmes étaient sous la règle absolue de leur mari et elles n'avaient pas le droit à la propriété. Donc vous voyez que les femmes à l'époque de Pierre sont déjà soumises dans la culture païenne. Elles étaient déjà soumises à leur mari, que cela leur plaise ou pas. Et donc les mots de Pierre aux femmes chrétiennes d'être soumises ou soumises à leur mari n'était pas du tout choquant pour les premières chrétiennes, comme pour certains aujourd'hui peut-être. Mais quand Pierre nous dit dans le chapitre 1, verset 18, « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre hérité de vos pères. » La Bible ne désire pas répéter aveuglément les valeurs de la culture autour d'elle. Par contre, ce texte s'intéresse à l'attitude derrière la soumission qui est déjà présumée. Pour prendre un exemple, pensez aux impôts aujourd'hui. On est obligé de payer des impôts, ça fait partie de notre société, de notre culture. Mais est-ce qu'on paye nos impôts honnêtement et avec une bonne attitude, selon les lois de notre pays, ou est-ce qu'on le fait dans la malhonnêteté? Quel témoignage donnons-nous au monde? C'est ça la question. Quelle est l'attitude derrière? Et donc la soumission n'est pas censée de diminuer la valeur des femmes dans le mariage. dans la Bible. La Bible nous dit déjà que les femmes ont une valeur énorme. Donc ici, il faut comprendre le contexte théologique. La femme a été créée pour compléter l'homme. Elle a été donnée une valeur ontologique égale à l'homme. C'est-à-dire, elle est égale à l'homme dans son être. Elle est faite dans l'image de Dieu. Jésus a aimé des femmes aussi. Il a guéri des femmes, on lit dans les évangiles. Il a enseigné des femmes, il a donné sa vie pour des femmes, n'est-ce pas? On lit en Éphésiens chapitre 5 que Jésus aime son Église comme si l'Église est sa femme. Encore une fois, le contexte est clé. Ici, en 1 Pierre chapitre 3, le contexte nous pointe vers l'attitude derrière la soumission. Le contexte suggère qu'une conduite pure et respectueuse est louée. Le comportement d'une femme dans son mariage peut témoigner de Christ. Mais qu'en est-il des femmes qui vivent dans des relations abusives? Dans un bon mariage, la soumission n'est même pas une question des fois. Souvent c'est naturel selon les rôles. Il y a l'amour, le respect, la soumission déjà dans la relation. Mais la soumission au mari est complètement autre chose dans une relation abusive. Alors ce texte ne nous donne pas de conseils pratiques pour ce genre de situation, mais je dirais deux choses basées sur le contexte. En appuyant sur les remarques de Pierre au chapitre 2, on a étudié ça il y a deux semaines, je pense qu'une femme qui se comporte par une bonne conduite devant Dieu peut réduire au silence l'ignorance des insensés, pour citer le verset 15 de chapitre 2. Une femme pure et respectueuse peut exposer le mal qui est fait contre elle, dans un sens. Et j'ajouterai aussi que toute violence contre une femme, contre une sœur en Christ, déshonore Dieu. Et l'Église doit être prête à aider des femmes qui souffrent sous une mauvaise interprétation de ce mot « soumission » dans ce texte. Mais je vous rappelle que les versets 1 et 2 de ce texte ont pour but de vous rappeler, vous les femmes, que votre amour pour Christ, votre soumission à votre mari, votre comportement pur et respectueux, servent comme témoignage de Christ dans toutes vos relations. Votre conduite peut parler fort. Les gestes sont plus éloquents, des fois, que la parole, n'est-ce pas? Mais la suite de ce texte nous rappelle que votre apparence corporelle peut parler fort aussi, et que votre apparence témoigne de votre relation à Dieu en Christ. Comme Dieu a dit à David, en 1 Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Les versets 3 à 6 d'1 Pierre chapitre 3 incitent les femmes de se comporter comme Sarah, femme d'Abraham, en mettant leur espérance en Dieu et non pas en leur parure. Alors, je dirais une chose importante tout de suite. Ce texte n'est pas du tout contre les bijoux ou les beaux vêtements ou la beauté physique, parce que même Sarah, qui sert comme exemple dans ce texte, était décrite quelquefois déjà en Genèse comme quelqu'un de très, très belle. Elle était une femme très belle. Il faut comprendre aussi que les femmes dans la culture juive au 1er siècle ont porté des fois des bijoux, aussi des anneaux des fois dans le nez, ce genre de choses. J'ajouterai aussi que la beauté physique n'est pas découragée ou interdite par ce texte. Pierre n'est pas en train de dire « arrêtez d'être attirant ». Ce n'est pas ça l'idée. Si on est beau, on est beau, n'est-ce pas? Ça marche comme ça. Il y a des femmes qui sont belles, quels que soient les vêtements qu'elles portent, ou quels que soient leurs bijoux ou maquillage, comme ma femme par exemple, n'est-ce pas? La parure qui est mise en valeur dans ce texte est la parure d'un esprit doux et tranquille. La parure qui est mise en valeur dans ce texte est la parure d'une foi en Dieu. Les femmes chrétiennes ont l'opportunité de témoigner de Christ en mettant en valeur la beauté de leur caractère et de la sanctification que Dieu leur accorde par la foi en Jésus-Christ. Dans cet épître, Pierre encourage les chrétiennes à se poser la question, est-ce que je cherche d'être une top modèle, une top servante de Christ? Des nombreux panneaux affichages aujourd'hui, des publicités, nous donnent l'impression que notre valeur en tant qu'être humain est liée directement à notre côté sexy, n'est-ce pas? Nous avons créé une religion de la jeunesse et de la beauté. Vous connaissez peut-être l'actrice Joan Rivers, une actrice comédienne américaine, c'est pas très grave si vous ne connaissez pas, mais elle est morte l'année dernière à l'âge de 80 ans à peu près. Elle est estimée qu'elle avait environ 700 chirurgies et opérations esthétiques dans sa vie. Elle a dit à un moment donné, j'ai eu tellement d'opérations de chirurgie plastique, quand je mourrai, ils feront don de mon corps à Tupperware. Si vous comprenez. Une autre fois, elle a dit, le jour où je mourrai, je ne sais pas si Dieu me reconnaîtra à cause de mes opérations. Et c'est un peu drôle ce qu'elle dit, mais c'est triste en même temps, n'est-ce pas? C'est ça la religion de la beauté. Alors, il y a une application dans ce texte, dans cet exemple, pour les femmes et pour les hommes, pour toute la communauté des croyants. Votre communauté se souviendra de vous à cause de quoi un jour? Est-ce qu'elle se souviendra de vous parce que vous êtes beau ou belle ou parce que vous êtes fidèle à Dieu? Est-ce qu'elle se rappellera de vous parce que vous êtes bien fringué ou parce que vous aimez vos frères et sœurs en Christ? Quand des gens arrivent à notre église, est-ce qu'ils vont dire « Je suis content d'être tombé sur une église pleine de top modèles » ou est-ce qu'ils vont dire plutôt « Je suis béni d'appartenir à une communauté qui vit l'Évangile d'une manière authentique. » Dieu regarde-t-il votre apparence ou votre cœur? C'est ça la question. Dans ce texte, Pierre parle aux femmes des églises au premier siècle en les rappelant de l'opportunité qu'elles ont de témoigner de Dieu par leur comportement, par leur attitude qui met en valeur des choses éternelles. L'Évangile, par exemple, la croix de Jésus, la résurrection, des choses importantes. Les femmes ont un rôle important dans le témoignage de Christ devant leur mari et devant le monde. Alors, dans le verset 7, Pierre se tourne aux hommes et à leur témoignage dans le mariage. Ma traduction du verset 7 dit « Vivez avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. » Ça veut dire que l'homme doit reconnaître les besoins de sa femme. Il doit reconnaître les différences physiques et émotionnelles qui existent entre l'homme et la femme. Comme on a déjà établi dans le contexte théologique de la Bible, la valeur ontologique de la femme n'est pas mise en question ici. Elle est co-héritière avec l'homme. Et toutes les bénédictions spirituelles par la foi en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu. Donc, elle est co-héritière de toutes ces choses, toutes les bénédictions spirituelles. Et donc, si vous êtes homme, vous avez la responsabilité d'honorer et de protéger votre femme qui a une valeur égale à la vôtre. Encore une fois, je pense que cette référence à la faiblesse par des différences plutôt physiques. Et en regardant l'humanité, c'est évident qu'il y a des différences physiques entre l'homme et la femme. Je remarque cette différence en force et en comportement déjà chez mes enfants, par exemple. Parmi mes deux garçons et mes deux filles, ils ont déjà établi un genre de chaîne alimentaire. Avec mon fils aîné à la tête et la petite Margaret, la plus petite, en bas. Et quand il y a des bagarres chez moi, je sais toujours comment ça va finir. Les plus grands remportent contre les plus faibles. Les garçons gagnent souvent contre les filles. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Et récemment, après avoir séché les larmes et après avoir mis en place des sanctions restrictives habituelles, j'avais une très bonne discussion avec mes fils au sujet de la force masculine, les muscles et tout ça. à quoi ça sert des grands muscles masculins. On a établi deux listes. Sur une liste, on a parlé des choses qu'on ne doit pas faire avec nos muscles. Nos muscles ne sont pas faits pour frapper les filles, pour tirer les cheveux, pour étrangler les uns les autres, pour braquer des banques, ce genre de choses-là. Donc sur une autre liste, on a établi la bonne utilisation des muscles. Les muscles servent à protéger les filles. Ils servent à porter des courses pour maman. Ils servent à secourir les personnes vulnérables. Ils servent à ouvrir les noix de coco dans le bicep. Ils servent à lutter avec des ours. Des choses pratiques comme ça, vous voyez. L'image de la faiblesse au verset 7 sert à nous rappeler des différences de rôle et de responsabilité dans le mariage. Ça applique à tous les hommes, mariés ou pas. Quand le texte dit « honorez votre femme », il veut dire littéralement « honorez votre femme précieuse et inestimable ». C'est ça le sens dans la langue originale. Elle est co-héritière de la grâce de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Elle a un héritage égal à la vôtre en Christ. Et si on n'aime pas sa femme selon la Bible, comment peut-on prétendre aimer notre Dieu et le prier avec une bonne conscience? Les hommes sont obligés d'honorer leur femme, comme les femmes sont obligées de se soumettre à leur mari, pour que leur mariage démontre un amour mutuel qui témoigne de Dieu et de sa grâce. Nos mariages doivent témoigner de Christ et pointer vers l'œuvre rédemptrice de Dieu à la croix. Peut-être vous êtes marié, peut-être vous étiez marié, peut-être vous serez marié un jour, ou peut-être vous êtes appelé à rester célibataire. Mais quelle que soit votre situation relationnelle, le mariage est une institution qui bénit l'Église et qui bénit notre société, notre monde, notre pays. On peut et on doit tous valoriser le mariage et son témoignage aux gens. La Bible enseigne que le mariage est la norme, la règle pour les êtres humains. Nous sommes faits par Dieu pour le mariage, pour avoir des enfants. Et c'est vrai que dans le passé et même aujourd'hui, le mariage est enseigné dans des églises d'une manière qui peut aliéner les célibataires des fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires dans les églises. Aujourd'hui, le mariage est reporté de plus en plus pour des raisons diverses. Et je suis d'accord qu'on doit être sensible à ces réalités. Mais de même, je veux mettre en valeur, avec la Bible, le mariage. On n'est pas là pour juger ceux qui sont célibataires. Ce n'est pas ça le but de ce texte. On n'est pas là pour juger ceux qui sont divorcés. On n'est surtout pas là pour juger ceux qui souffrent dans des mariages abusive. Le but est de mettre en valeur ce que Dieu met en valeur. Le but de nous tous est d'honorer et de protéger cette institution du mariage que Dieu a mis en place pour le bien de l'Église et pour le bien de ce monde. Les mariages et les relations entre hommes et femmes de cette Église peuvent porter un fort témoignage des valeurs chrétiennes. Nous pouvons montrer par notre comportement que nous sommes transformés par la grâce de Dieu qui est réelle dans notre vie. Une attitude de soumission, d'humilité peut servir à pointer les gens vers la soumission de Jésus-Christ à la volonté de son Père, à la croix. C'est vrai que nos mariages ne sont pas parfaits parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des problèmes, bien sûr, mais quand nos voisins non-croyants nous regardent, est-ce qu'ils voient des relations authentiques qui sont basées sur l'humilité, sur la repentance, sur le pardon et sur un amour qui vient de Dieu? Dans un monde où le mariage et les relations s'effondrent autour de nous, nous avons l'opportunité de témoigner de Christ par l'amour, par le respect qui existe dans nos mariages et dans nos relations entre frères et sœurs en Christ. Et donc, je vous invite, avec moi, à pointer notre monde vers Christ, vers notre Seigneur, vers notre Sauveur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions afin que tu nous aides à fonder nos mariages et nos relations sur toi. Aide-nous à défendre le mariage, d'honorer cette institution que tu as faite pour notre bien. Seigneur, nous te prions afin que nos relations les uns aux autres servent de témoigner de toi et de l'œuvre de Christ à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Alors on va chanter un cantique maintenant, mon espérance est en Jésus.